Alors c'est vrai que le jardin, il devait être merveilleux. Ça devait être beau. Et les fruits de tous ces arbres fruitiers qu'il y avait dans ce jardin, ils étaient excellents, ils étaient délicieux. On est des fois déçus des fruits qu'on achète dans les magasins, ils sont beaux. Mais quand on les mange, certains, c'est très différent. Hein, bon, il y a des fois, on est enthousiasmé par certains de fruits qu'on trouve, mais quelquefois, l'apparence est trompeuse. Et alors, il y avait des arbres de toutes sortes, agréables à voir, bons à manger. Tout respirait la joie et la sainteté. Et l'homme vivait en parfaite communion, en parfaite connexion avec Dieu. C'était génial, c'était beau, c'était bon. Il y avait la présence de Dieu, c'était... L'homme, Adam, pouvait parler à Dieu, Dieu lui parlait. Il s'entendait, il n'y avait pas d'interférence du péché dans la relation. Mais malheureusement, à cause de la désobéissance d'Ève et d'Adam, alors que Adam connaissait, il aurait pu quand même mettre en garde et davantage. Non, les deux ont péché et ils n'ont pas pu conserver le jardin, malheureusement, parce qu'il y avait l'arbre de vie et ils ne pouvaient plus accéder à la vie éternelle par cet arbre qui était au milieu du jardin, à cause de l'arbre de la connaissance du mal auquel ils avaient goûté, et ils s'étaient séparés de Dieu, et donc ils ont été mis à l'extérieur du jardin, ils ne pouvaient plus y rentrer, et il est devenu ce jardin, le jardin de la chute. Malheureusement, et l'humanité est tombée dans cette chute qui l'a séparé de Dieu, c'est un drame. L'homme n'a pas cru. Il a douté, il a prêté l'oreille à l'adversaire, à Satan, et il s'est laissé entraîner dans la désobéissance. Adam et Ève échouent à tenir bon dans l'obéissance. C'est ça que Dieu aurait voulu, hein, qu'ils tiennent bon dans l'obéissance. Maintenant, ils ont chuté et ils sont chassés d'Éden. Alors, pour réparer ce drame, Dieu a planté deux autres jardins. Extraordinaire. Dieu a toujours un plan pour sauver l'humanité. Il cherche depuis le départ à sauver l'humanité. Quand l'homme chute, il y a un plan restaurateur, il y a un plan de rédemption, il y a un plan pour chacun. Et le deuxième jardin est le jardin de la lutte spirituelle, du combat spirituel. Gethsémané, qui est le pressoir d'huile. Gethsémané, c'est ça que ça veut dire, pressoir d'huile. Il y a une pression qui va être exercée, une pression terrible, comme la pression qui fait couler l'huile dans le pressoir à huile, ou la pression qui fait couler le jus du raisin dans le pressoir à raisin. Là, en l'occurrence, c'est le pressoir d'huile, hein, vous avez compris. Gethsémané, c'est le jardin des oliviers. C'est des oliviers qui sont là, dans ce jardin, où Jésus a l'habitude de fréquenter ce jardin pour aller y prier, même la nuit. Et Jésus va intercéder. C'est un lieu où Jésus a obéi jusqu'au sang. Qui a obéi jusqu'au sang? Jusqu'au sang. Le lieu du pressoir. Jésus triomphe par son intercession de la volonté de la chair et de l'oppression des ténèbres. Il y a une oppression terrible. Le diable est bien là aussi. Dieu est là dans ce jardin, mais le diable aussi. Terrible, hein, quand les deux se trouvent là. Dieu est là, mais le diable aussi. Et il va devoir triompher. Et vous savez, c'est pas simple. La vie chrétienne, ne croyez pas que vous allez passer une vie chrétienne, vous allez réussir votre vie chrétienne sans prier. Ça, c'est impossible. Il y a un combat. Et au bout de ce combat, il y a une défaite ou une victoire. Il n'y a rien à faire. La chair est faible, l'esprit il est bien disposé. Oh, l'esprit, il sait dire de belles choses. il s'est raconté l'évangile. Mais la vie réelle, c'est l'expérience que nous en faisons. Et la chair, elle est faible. Et sans prier, c'est impossible d'arriver à quoi que ce soit. Et Jésus l'avait compris. Toute la nuit, il savait ce qu'il allait endurer le lendemain. Il n'avait pas d'autre choix que de prier, d'intercéder, de chercher Dieu pour réussir à accomplir la volonté du Père. Et le diable était là pour empêcher Jésus d'atteindre le but que Dieu avait pour lui. Jean chapitre 18, verset 1. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra dans ce jardin, lui et ses disciples. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qui trouvaient endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi ? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Marc prend dans deux autres évangiles, Marc chapitre 14, verset 33, il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Luc 22, verset 43, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. » On voit le niveau d'intercession, le niveau d'angoisse, le niveau d'oppression énorme qui est sur Jésus. Que ta volonté... Et c'est la première, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, s'il te plaît. Boire cette coupe de la souffrance et de la mort, c'était extrêmement difficile. Si c'est possible, éloigne. S'il te plaît, éloigne, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Puis il restera cette partie de la prière de Jésus. Non pas ma volonté, mais ta volonté. La pression est maximale, le ciel est obscur. Rien n'y est agréable dans ce jardin. Rien n'y est agréable. C'est l'obscurité, c'est la nuit, c'est les ténèbres qui sont là. Et dans cette rencontre avec Dieu, avec son Père, avec cette oppression environnante, c'est une nuit sombre, triste, où le sort de l'humanité se joue. Jésus est dans l'agonie, il lutte, il est triste jusqu'à la mort, il prie avec angoisse, alors que l'insouciance règne à Jérusalem. L'insouciance parfaite. Des grumeaux de sang tombent de son front jusqu'à terre. Quel contraste avec le jardin d'Éden. Et c'est à Gethsémané qu'il a bu la coupe de la malédiction. Il a été fait malédiction pour nous à la croix. Et ce passage nous le dit, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous. » Identifié au péché, Dieu l'a fait péché pour nous. Dieu a fait Jésus péché pour nous. Il a été fait malédiction pour nous. Comme le serpent d'airain sur la perche tendue par Moïse. Il a été fait péché pour nous. Afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Par Jésus-Christ, nous devenons
justice de Dieu.
Extraordinaire. Il a été fait péché. Il s'est identifié à nous. Il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu.
Extraordinaire. Et c'est ça qu'il a accompli à Gethsémané. Un accomplissement que personne d'autre n'aurait pu accomplir. Il n'a pas cédé. Il a été jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est ainsi que,
au troisième jardin,
en arrivant au troisième jardin, le troisième jardin, c'est le lieu du mystère caché depuis des siècles que Dieu révèle à l'humanité. Dieu voulait sauver par son Fils l'humanité. Et c'était pas évident de comprendre dans la Bible que Dieu allait envoyer son Fils, déjà, que ça allait être le Messie. Et pour les Juifs, le Messie est triomphant, il règne, le Messie, il est puissant. Et c'est pas possible pour les Juifs que le Messie soit si faible qu'il souffre au point d'en mourir, qu'il meure. Mais ça, c'est une désolation. C'est quoi ça pour un Messie? Comprenez? Et donc, c'est resté un mystère jusqu'au moment où Dieu a manifesté clairement, a révélé le plan de Dieu, comment Dieu allait faire. Même le diable s'est fait surprendre, il n'a pas compris non plus. Ça a été dévoilé aux hommes, mais l'ennemi en a ramassé une bonne, parce qu'il pensait avoir la victoire et c'était sa plus grande défaite. Golgotha est le lieu du crâne. L'endroit où Pilate fait habituellement crucifier des criminels, juste à proximité du jardin où il y avait plusieurs tombeaux. J'ai été visiter ce jardin. Bon, il y a deux, trois possibilités, bien sûr. Il y a toujours des contestations par rapport aux uns, par rapport aux autres. Mais quand même, on a pu voir ce jardin. Il devait être à proximité de là où on crucifie, et le lieu du crâne. C'est un lieu qui fait couler les larmes de tous ceux qui aiment Jésus. Et nous lisons cela dans Jean 19, verset 41. « Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. » Chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Jésus connaissait ce jardin. C'était le lieu du supplice de la mort, jardin rocailleux, épineux, couvert d'ossements. Ce jardin ne connaissait que des cris de souffrance et de détresse. Sans ce jardin, le ciel était fermé. Or, notre salut, il faut le rappeler, n'est pas un salut à bon marché. Jésus a dû passer par des souffrances terribles, une mort atroce, et c'est lui qui a payé un salut qui nous était impossible à nous de payer, impossible. Il l'a payé de sa propre vie, de son propre sang. À Golgotha, l'expiation a eu lieu. Jésus s'est identifié à nous et il est mort pour la rémission de nos péchés. C'est aussi un lieu d'espérance et de joie qui remplace la tristesse du désespoir. C'est un lieu de joie et d'espérance. La mort n'a pas pu retenir Jésus captif. Du tombeau, les anges proclament à Marie de Magdala que la mort a été vaincue. Que cherchait Marie à l'aube d'un jour nouveau? Qu'est-ce qu'elle cherchait en fait? Ce n'est pas Jésus vivant qu'elle cherchait. C'est le corps de Jésus. Pour l'embo, pour continuer à mettre des aromates. Parce qu'elle jugeait que les aromates que Joseph d'Arimathée et Nicodème, bon, elle voulait améliorer un peu son embaumement qui avait été fait dans la rapidité à cause du vendredi soir. C'était le sabbat qui commençait, ils ont dû se presser. Quand ils arrivent là, la pierre est roulée. C'est à ce moment qu'elle voit l'ange, les anges qui vont leur parler. Et dans Luc, les anges disent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Alors le mystère gardé, le mystère dont on parlait tantôt, gardé pendant des siècles, est dévoilé d'abord à Marie de Magdala, une femme qui avait été délivrée de sept démons, qui suivait Jésus, qui le servait, qui était proche de lui, comme d'autres. Et puis aux disciples, Dieu se révèle et le voile des larmes de Marie, parce que c'était comme un voile devant ses yeux, ses larmes, va faire place à la joie. Puis, le voile du doute et de l'incrédulité qui était sur l'esprit des disciples va faire place à la foi, la confiance. Ils vont entrer dans cette perspective de la résurrection. Ils vont aussi croire. Jésus a triomphé de la mort. Il a remporté la victoire sur le péché, l'a prouvé par sa résurrection entre les morts. Dieu nous interpelle comme un phare éclairant la nuit. Et Jésus nous appelle à recevoir la purification de nos péchés par son sang. C'est là, dans ce jardin, que les ossements desséchés que nous sommes reprennent vie. Selon la vision d'Ézéchiel, les ossements qui reprennent vie. Bien, là, au lieu du crâne, Golgotha, nous reprenons vie. Alors, dans quel jardin s'apparente la vie que tu mènes? Dans quel jardin? On a vu trois jardins. Dans lequel s'apparente ta vie? D'abord, le jardin d'Éden, de la séduction à la déconnexion avec Dieu. Ce jardin-là, tu réalises que tu as chuté, qu'il y a une séparation entre Dieu et toi. Tu peux reprendre le contact avec Dieu par Jésus. Il est là, il est au milieu de nous, il veut se révéler à toi. C'est possible. Il y a le jardin de Gethsémané de la lutte. Le lieu du pressoir est un révélateur. Dans les épreuves que nous avons, les épreuves sont toujours un révélateur. Jésus a été éprouvé à Gethsémané, il a dû lutter, il a été vainqueur, il a été trouvé vainqueur. Et dans nos épreuves respectives, Dieu veut aussi révéler notre foi. C'est au travers des épreuves que notre foi est purifiée, sanctifiée. Et Dieu veut révéler cela. Ou bien nous choisissons la fuite, que cette coupe s'éloigne de moi. Il y avait cette possibilité, hein, que cette coupe s'éloigne de moi. Des fois, on a envie de fuir. Quand on est dans l'épreuve, dans l'adversité, il y a toujours une possibilité de fuite. Certaines personnes choisissent la fuite. Ou bien, nous nous offrons à Dieu et à sa volonté, que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus a décidé de ne pas fuir. Il était à Gethsémané, il y avait une zone d'oppression, un maximum. C'était bien plus facile de décamper de là. Il restait là.
Parce que la volonté de Dieu, c'était qu'il soit là, jusqu'au bout. Il a été arrêté par Judas. Il le savait, il lui avait déjà dit. Hein? Il avait dit, hein? Malheur à celui par lequel ça arrivera. Il savait que ça arriverait. Il connaissait déjà. Il avait des images d'Ésaïe 53. Ce que beaucoup n'ont pas, n'avaient pas encore à ce temps-là. Et il savait très bien. Nous avons le choix entre la complaisance et la soumission radicale à Dieu. Soumission radicale. Jésus a été soumis de manière radicale à son Père pour accomplir le bien partout où il passait. Nous avons le choix entre nos intérêts personnels et ceux de Dieu. C'est un choix. Je choisis soit de vivre pour mes propres intérêts, ou je choisis de vivre pour les intérêts de Dieu. Et ça devrait être constant, parce que quelquefois il y a du mélange. Des moments où je choisis les intérêts de Dieu, puis hop, je reprends la main et je continue avec mes propres intérêts. Non, il y a un choix à faire. Hein? Je crois que c'est important. Et Jésus, au jardin de Gethsémané, il a tranché entre ses propres intérêts et ceux de son Père. Le confort ou l'inconfort. Mais l'inconfort dans la volonté, il vaut mieux l'inconfort dans la volonté de Dieu que le confort du péché, de se laisser aller. Et Jésus a tranché. Et comme lui, nous pouvons aussi trancher par rapport à ce choix que nous avons à faire. Est-ce que nous allons fuir nos responsabilités, ou est-ce que nous allons nous offrir à Dieu et rechercher les intérêts du royaume de Dieu? Alors il y a le jardin de Golgotha, la tristesse, le désespoir, et la mort laisse place à la joie, l'espérance et la vie. Es-tu dans ce jardin? Jardin de tristesse, de désespoir, de mort. Quelque chose est-il mort en toi? Un projet, des relations d'amitié, des relations de couple, un rêve qui semble brisé, irréalisable. Mais Dieu ressuscite ce qui est mort. Dieu ressuscite ce qui est mort. As-tu besoin d'une résurrection? Dans ta vie, dans ton couple, dans ton projet, dans ton rêve? Comme dans la vision des ossements d'Ézéchiel, Dieu appelle les eaux à reprendre vie. Dieu t'appelle à proclamer la bénédiction et la vie et à bannir la tristesse et le désespoir. Quelqu'un doit offrir son désespoir à Dieu, certainement, et proclamer sa libération. Son rêve va se concrétiser, son projet va se réaliser. Tout est possible à celui qui croit. Vous le croyez? On va demander au Seigneur de bénir sa parole aussi. Seigneur Père, Seigneur, t'en supplie, Seigneur,